On m'a dit qu'il fallait que je mange le micro pour que vous entendiez bien. Alors je viens d'apprendre que j'avais une soirée de moins à préparer, mais j'ai relu mes quelques notes que j'avais prises depuis longtemps. Si j'ai le temps, je vous donnerai trois mots de fin, pas de conclusion, mais pour terminer la soirée. Alors, septième demeure, sœur Charlotte Marie a dit que j'allais peut-être vous la présenter, mais c'est votre cœur, la septième demeure, de toute façon. Donc je ne peux pas vous présenter votre cœur, c'est vous qui le connaissez. Moi, je ne le connais pas. Mais Dieu le connaît, par contre. Voilà, en quelques mots sur le déroulé qu'on va prendre, un petit mot sur ce lieu-là, ce sera très bref. Et ensuite, donc l'habitation de la Trinité en nous, le mariage spirituel, une union transformante, et puis la fin qui est sans doute l'aboutissement de notre vie, et je pense que nous serons peut-être pris un peu d'avance sur nous, l'action et la contemplation, avec un « et » majuscule. Alors, quelques mots sur les septièmes demeures. C'est le lieu où habite Dieu. Dans la septième demeure, on trouve Dieu. Ni plus ni moins. Thérèse dit, car s'il a sa demeure au ciel, il doit aussi avoir dans l'âme une autre demeure, où lui seul habite, et disons-le, un autre ciel. Moi j'avais coutume de dire aux enfants qu'il y avait deux ciels, celui qui est au-dessus de nos têtes, qui a sa valeur mais pas trop spirituellement, et puis celui où est Dieu, le ciel où est Dieu. Eh bien, il y a un troisième lieu, c'est le ciel qui est dans nos cœurs, en fait, en quelque sorte. Le lieu où habite Dieu, c'est aussi dans notre cœur. Alors, c'est le même mystère que le mystère de l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'il est totalement présent à chacun, comme il est totalement présent dans chaque hostie que chacun peut recevoir, pas plus pour l'un que pour l'autre, il est totalement présent à chacun. C'est sa spécialité, il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Nous ne savons pas faire ça. Et donc si Dieu habite en nous, ça veut dire que le Père, le Fils et l'Esprit Saint habitent en nous. La Trinité qui habite en nous. Alors il y a un très beau chant, mais ce n'est pas de Sainte Thérèse, donc je ne vais pas vous le donner, mais vous pourrez le trouver facilement, c'est de la Bienheureuse, de la Sainte Élisabeth de la Trinité, qui est « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore », enfin il y a beaucoup de développement, comme beaucoup de nos sœurs carmélites quand elles écrivent, elles sont prolixes. Alors l'habitation de la Trinité en nous, ça c'est une vérité que Thérèse a éprouvée, mais que tout le monde n'est pas obligé d'éprouver au sens de le réaliser par l'expérience. C'est la foi qui nous le dit d'abord. L'habitation en nous de la Trinité, c'est la réalisation des paroles de Jésus dans Saint Jean, Jean 14, c'est la première citation que je vous ai mise sur la feuille. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. C'est des textes qu'on est en train de lire en ce moment, hein, dans les lectures de la semaine et du dimanche. On est dans Saint Jean, ce grand discours après la scène et avant la mort de Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Alors vous me direz, il y a le Père et le Fils, il n'y a pas l'Esprit Saint. Sauf que là où est le Père, le Fils est aussi, et l'Esprit Saint d'eux-mêmes, pour tout ce qui se font. Alors, en fait, on retrouve ça dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc, Thérèse n'a rien inventé. Si, elle l'a dit avant que le formule notre catéchisme d'aujourd'hui, mais ça devait déjà être avant, dans les autres versions précédentes. Au numéro 260, il est question d'être habité. Nous sommes appelés à être habités par la très sainte Trinité, dès maintenant, et à la fin de temps, à la fin ultime de toute l'économie divine, c'est-à-dire de l'organisation du salut, où nous serons tous appelés à être en parfaite unité dans la Trinité. Ça, c'est après notre mort. Donc ce qui est valable aujourd'hui de façon imparfaite, le sera ensuite de façon parfaite. Et dans la prière de Jésus, dans le chapitre 17, un peu plus loin dans Saint Jean, C'est la deuxième citation. Vous avez ceci qu'on a relu encore récemment, je crois. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quand on lit Saint Jean, on finit par avoir le tournis. On finit par plus savoir qui est dans qui. Mais chacun est soi-même et tout le monde est ensemble. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, un seul Dieu, mais trois personnes. Et puis nous, au milieu de tout ça, plutôt au milieu de lui, de Dieu. Et vous savez qu'à la fin de chaque grand chapitre du catéchisme, il y a un petit résumé en bref, au numéro 265, qui dit ceci. Par la grâce du baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes appelés à partager la vie de la bienheureuse Trinité, ici-bas, dans l'obscurité de la foi, et au-delà de la mort, dans la lumière éternelle. Voilà un petit résumé. Et là, je ne vous ai pas parlé de ce qu'a dit Thérèse, pratiquement pas. C'est l'Évangile et le catéchisme. Mais pour dire que Thérèse est en plein dedans, vit exactement ça, et nous l'explique avec ses mots, avec l'expérience que le Seigneur lui a fait vivre, pour qu'elle puisse l'expliquer à sa façon. Alors, l'expérience en question, c'est le mariage spirituel. Je ne vous parlerai pas tellement de l'expérience en elle-même, mais de quoi s'agit-il en fait? C'est ce que je vous disais à l'instant, elle l'a vécu, le Seigneur l'a fait vivre à Thérèse, cette expérience, cette expérimentation de vivre unie à Dieu, mais tout le monde n'a pas nécessairement conscience de cet état. On peut vivre ce mariage spirituel sans le savoir. C'est assez étonnant. Elle l'a compris, elle l'a perçu, elle l'a vécu de façon peut-être un peu sensible, je me méfie un peu du mot, mais en tout cas elle l'a expérimenté, on ne sait pas trop exactement comment, mais c'était une réalité qu'elle a perçue. Mais pour nous c'est une réalité, une vérité de foi. Alors évidemment, être uni à Dieu si on fait n'importe quoi de sa vie, c'est peu probable. Parce qu'on ne peut pas être uni à quelqu'un si on fait tout le contraire de ce que cette personne demande. Dans le fond des choses, ça ne peut pas être réalisable. C'est accessible à condition de se convertir. Mais pour quelqu'un qui essaye de vivre chrétiennement, en toute sincérité, en toute vérité, c'est une expérience qui n'est pas forcément ressentie en tant que telle, qui n'est pas forcément décelée immédiatement par des ressentis ou autre chose. Ce sera plutôt les fruits qui le montreront. Et si l'âme ne le sait pas, c'est peut-être mieux pour son humilité. Et puis après tout, qu'est-ce que ça peut faire qu'on se demande si un tel ou une telle est dans cet état-là ou pas? C'est le Seigneur qui le sait ça, et qui fait avancer chacun à sa façon. Donc c'est la particularité du Seigneur, il nous fait vivre des choses parfois, uniquement dans la foi, et nous ne percevons rien, ou presque. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Voilà, on est dans les mystères insondables de ce que fait Dieu, de manière façon visible ou pas tout à fait visible. Alors, elle dit que le mariage spirituel, c'est une union parfaite, mais parfaite avec des guillemets. Moi, je rajoute les guillemets parce que elle sera parfaite après la mort, dans l'union définitive, dans la vision. Pour l'instant, elle est imparfaite, donc c'est sur la terre. Elle ne peut pas être tout à fait complète. Alors, pour percevoir un peu de ce qu'est cette union par rapport à toutes les formes précédentes que vous avez vues dans les six autres demeures, moi, je n'ai pas entendu les sixièmes. Et puis le prêtre qui l'a préparé n'a pas réussi à me retrouver ce qu'il avait préparé, donc je n'ai pas été recherché dedans ce que c'était que les sixièmes, je n'ai pas été révisé tout ça. Simplement quelques images qui vous ont donné en troisième citation, là, qui sont assez parlantes en matière de l'unité vécue, la réalité de l'unité de l'âme avec Dieu. Et alors il y a plusieurs images. La première, c'est comme l'eau qui tombe du ciel dans une rivière ou une fontaine, s'y confond tellement qu'on ne peut plus séparer une eau de l'autre. Une des eaux, c'est nous, l'autre, c'est Dieu. Ça vous donne une idée d'unité. Alors, c'est une image, comme toutes les images, elles sont imparfaites. Parce que nous restons nous-mêmes et Dieu est toujours Dieu lui-même. Donc, on devrait pouvoir les distinguer. Mais c'est pour dire l'unité qui est d'un autre degré, sans doute, que précédemment. Deuxième image, un petit ruisseau qui, entrant dans la mer, mêle tellement ses ondes aux siennes qu'il est impossible de les séparer. Et la troisième, c'est encore comme une grande lumière qui se divise en entrant dans un appartement par deux fenêtres, mais qui ensuite ne forme qu'une seule lumière. Voilà. Ça, c'est pour les images. Dans le fond des choses, c'est une union de volonté. Notre volonté, la volonté de l'âme, se fait complètement, se fond complètement ou se coule complètement dans la volonté de Dieu. L'âme veut ce que Dieu veut. Probablement en toute chose. On est arrivé normalement à un degré où il n'y a pas trop d'interruptions là-dedans, c'est plutôt constant et permanent. L'union est complète de ce point de vue-là. L'union se fait totalement, il n'y a pas de distinction, comme il y en avait peut-être un peu plus dans les sixièmes demeures, je mets ça avec un point d'interrogation. L'union est cette fois-ci complète dans l'unité de la personne dans son entier. Il n'y a pas de division, de séparation d'une certaine façon entre corps et âme. C'est tout notre être qui est uni à Dieu. Et cette union est définitive. Alors j'ai un point d'interrogation, je ne demanderai pas aux sœurs de dire si c'est vrai ou faux. Je me demande s'il n'y a pas quand même des petites réserves, puisque je vous disais que tant qu'on est sur la terre, ça n'est pas tout à fait parfait. Mais elle est définitive dans le sens où il n'y aura pas de retour en arrière, sauf évidemment désertion de l'âme. Ça reste toujours possible. L'âme est plongée en Dieu comme l'éponge dans l'océan. Elle reste dans l'amour transformant qui la saisit et qui continue son œuvre. L'âme demeure toujours avec Dieu. Et c'est une grâce de paix en même temps qui envahit l'âme. C'est une paix de détachement, de solitude, d'harmonie intérieure. Il n'y a plus pratiquement de sécheresse, de trouble ou de faiblesse. Plus d'attaque et de danger. Parce qu'on est dans la demeure où Dieu demeure, où Dieu habite, Dieu réside. Et personne ne peut entrer et n'ose entrer pour chasser l'âme qui serait entrée. C'est parce que c'est le lieu de Dieu. Quand on est dans le lieu de Dieu, entre guillemets, on ne peut plus en être chassé. Personne ne peut nous en faire sortir. Personne n'ose entrer, c'est ce qu'elle dit exactement, personne n'ose entrer dans cette demeure pour en faire sortir l'âme. Et pourtant, l'âme continue son chemin sur la terre. Ce n'est pas encore la vie au ciel et la vision face à face. Voilà ce que dit Thérèse. Ce que nous connaissons par la foi, je vous l'ai dit avec le catéchisme au début, ce que nous connaissons par la foi, l'âme le comprend. On pourrait presque dire par la vue. Néanmoins, elle ne voit rien. Ah, c'est spirituel, ils nous disent des trucs bizarres. Hein. Nous le connaissons par la foi, l'âme le comprend, on peut le dire par la vue, et néanmoins, elle ne voit rien. Ni des yeux du corps, ni des yeux de l'âme. Car ce n'est pas une vision imaginaire. Vous vous rappelez le petit bout de topo, tout petit sur l'anthropologie que je vous avais fait il y a quelques semaines, et moi même maintenant. L'imaginaire, ça fait partie de l'âme spirituelle, enfin de l'âme humaine. Ça ne veut pas dire que Dieu est dedans, mais c'est une de nos capacités d'imaginer. Mais là, il ne s'agit pas d'imaginer. Ce n'est pas une vision imaginaire. Les trois personnes se communiquent alors à l'âme et lui donnent l'intelligence de ses paroles. L'intelligence, la compréhension de ses paroles, donc c'est le Jean 14, 23 qu'on a vu au début. Vite. Alors attention, c'est ce mariage spirituel. Alors je ne sais pas si c'est Thérèse qui parle d'union transformante ou si c'est le Père Marie-Eugène. Père Marie-Eugène, sûrement. Vous connaissez le Père Marie-Eugène ? Un peu de nom peut-être. Qui a fait une synthèse, une somme pour synthétiser tous les enseignements carmélitains sur la vie spirituelle. Pourquoi je vous dis ça ? Je ne sais plus. Oui, c'est lui qui parle de cette notion d'union transformante. Le mariage spirituel serait désignerait peut-être plus l'expérience ponctuelle de Thérèse, et l'union transformante, c'est la réalité concrète qui n'a pas besoin de manifestation particulière. Si tout ça arrive à l'âme, cette union, ce mariage, cette union des volontés, c'est pas pour le plaisir de notre âme. C'est pas pour qu'on soit bien. Voilà ce que dit Thérèse. Il sera bon, mes sœurs, de vous dire dans quel but le Seigneur accorde tant de faveurs en ce monde. Les effets ont dû vous le faire comprendre si vous avez été attentives. Mais je veux toutefois vous en reparler ici pour qu'aucune d'entre vous n'imagine qu'il ne cherche qu'à choyer ses âmes. Ce serait une grave erreur. Le Seigneur ne cherche pas à nous faire du bien et à nous choyer, même s'il le fait. C'est pas son but. Quel est le but de Dieu quand il fait ça? C'est nous fortifier pour que nous puissions imiter le Christ. Voilà ce qu'elle dit, c'est la citation 6. Sa Majesté ne peut nous accorder une plus grande faveur que de nous faire vivre dans l'imitation de la vie de son Fils tant aimé. J'ai donc la certitude que ces faveurs tendent à fortifier notre faiblesse, afin que nous sachions à son exemple beaucoup souffrir, c'est-à-dire nous unir à Dieu et à la passion du Christ. C'est pour cela qu'est donnée cette grâce de cette union des volontés, cette union transformante et ce mariage spirituel, pour que nous puissions mieux ressembler, mieux vivre, mieux nous unir au Christ. Et pour produire des œuvres, c'est la 7e citation, toute la pensée de l'âme est de chercher comment elle lui plaira de plus en plus. En quoi et par quel moyen elle lui témoignera son amour. Voilà à quoi sert le mariage spirituel, qui doit toujours produire des œuvres et encore des œuvres. C'est bien pour des carmélites, ça. Je croyais qu'elles vivaient retirées toute leur vie. Oui, mais elle pourra faire des œuvres quand même aussi. Alors peut-être que spontanément vous êtes plus tourné vers l'intérieur et moins sur les œuvres, et nous ce serait le contraire, mais ce serait un peu simpliste comme vision, je crois. Il y a une raison de fond, c'est que, comme je vous disais, qu'on n'est pas censé forcément toujours savoir qu'on est dans cet état-là, cette situation-là, de septième demeure, eh bien c'est les faits concrètement qui nous permettront peut-être de s'en apercevoir, ou que d'autres s'en aperçoivent. Ça passe par la mise en pratique. Les œuvres, c'est ça. On peut passer beaucoup d'heures en oraison et ne rien mettre en pratique. Enfin, on peut. Sur le papier. Dans la pratique, j'en suis pas sûr. Alors, et ça nous mène à ce dernier point. Ça tombe bien parce que je voulais rajouter un petit mot de conclusion que j'avais préparé à l'avance. Ça ira très bien. J'ai jusqu'à 21h. C'est parfait. Alors, à la fin, j'ai été surpris de découvrir ça. J'avais dû le lire il y a très longtemps, mais je ne me rappelais plus. L'exemple de Marthe et Marie sur cette notion d'action et de contemplation. C'est la dernière citation que je vous ai mise. Croyez-moi, Marthe et Marie doivent offrir ensemble l'hospitalité au Seigneur, le retenir toujours auprès d'elle et ne pas lui faire mauvais accueil en ne lui donnant pas à manger. Comment Marie, toujours assise à ses pieds, le nourrirait-elle si sa sœur ne l'aidait point? Sa nourriture, c'est l'effort que nous faisons de rapprocher les âmes de lui par tous les moyens possibles, pour qu'elle se sauve et ne cesse de le louer. Le terme de tout cela, la transformation principale, c'est que l'action et la contemplation sont entremêlées, enfin c'est difficile de les distinguer. Alors bien sûr, il y a des temps pour prier, des temps pour agir, mais c'est un tout en quelque sorte. On ne peut pas être que Marthe ou que Marie. Et nous-mêmes, nous sommes les deux à la fois, non pas une espèce de dédoublement de personnalité, mais une composante riche de ce que nous sommes, des facettes, on peut dire ça comme ça. Nous sommes à la fois Marthe et Marie. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait extrapoler sur l'Évangile, même si ce n'est pas écrit dedans, que d'une certaine façon, j'exagère un peu, mais tant pis, je pense que Marthe et Marie sont un peu interchangeables. Je pense qu'elles étaient capables de faire la même chose toutes les deux à des moments différents. Même si c'est vrai qu'on retrouve plus souvent Marie dans des situations de signes d'amour très marquants, très tangibles, Enfin, voilà, ça c'est une petite digression personnelle. Voilà. Alors, je vous avais dit, je vais chercher mon téléphone, mais c'est marqué dedans. Comme j'avais compris que je devais faire avant, dès le départ, une conclusion, la première réaction que j'avais eue quand on m'avait parlé de ça, c'est de dire il n'y a pas de conclusion, parce qu'il n'y a pas de conclusion à la vie spirituelle. Ça ne s'arrêtera jamais. Alors j'avais quand même pris quelques notes. Je vais vous dire un ou deux petits mots simplement, brièvement. Conclusion, voilà. La vie spirituelle n'a pas de conclusion. C'est même pas la mort qui puisse la mort ne conclut rien puisque notre âme vit toujours. Donc la mort n'arrête rien. Elle nous chamboule un petit peu pendant quelques temps puisque notre corps deviendra poussière, mais notre âme continuera à vivre. Donc c'est pas la mort qui ne va pas apporter de conclusion. La conclusion, ça veut juste dire que c'est la dernière fois qu'on se voit pour parler de ça. C'est tout. Voilà. Ce qui compte, à mon avis, peut-être à retenir d'abord dans tout ça, c'est que il s'agit d'une vie dans la foi. Tant que nous sommes sur la terre, c'est toujours une vie dans la foi que nous avons à mener. Donc quand on est dans la foi, il y a une partie, je ne vois pas, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est comme si je le voyais, mais en fait je ne vois pas. La comparaison avec l'Eucharistie est très, très parlante à ce niveau-là, c'est-à-dire que nous voyons avec nos yeux de la chair l'hostie consacrée, mais en réalité nous voyons les apparences du pain, toutes les apparences du pain. Mais notre foi nous dit... C'est pas du pain, c'est le Seigneur, c'est le corps du Christ. Donc notre vue physique n'a aucun effet, n'apporte rien, mais la vue de notre foi nous dit tout. Dans la vie spirituelle, c'est un peu la même chose. On ne voit pas Dieu, même si le titre de. Enfin, un des cris de Thérèse quand elle était petite, en l'occurrence, c'est Je veux voir Dieu. Oui, mais ça, c'est ce que nous ferons quand nous serons auprès de lui définitivement après la mort. Pour l'instant, sauf exception des apparitions, qui est tout à fait secondaire, enfin pas secondaire, minoritaire dans les cas de figure, à part ça, nous ne verrons jamais rien, nous ne verrons jamais Dieu directement. Nous verrons peut-être la trace de Dieu si nous demandons l'esprit de sagesse. Saint Paul veut qu'on demande l'esprit de sagesse demain dans les lectures, vous regarderez. Deuxième lecture, il est question de l'esprit de sagesse. C'est comme des lunettes de Dieu qui nous permettent de voir comme Dieu voit. C'est pas François qui disait ça. Il nous donne de voir comme Dieu voit. Donc là, on peut déceler des choses, on peut déceler la présence de Dieu, l'œuvre de Dieu, dans toutes sortes de choses, d'événements qui nous entourent. Mais en dehors de ça, on ne verra jamais directement Dieu, tel quel. Il y a toujours une part d'inconnu, peut-être parfois une part de choses qu'on ne voit jamais, qui nous échappent, alors qu'on devrait les voir peut-être, mais pas forcément. Le Seigneur agit aussi dans le secret des cœurs. Notre route ne sera pas celle de Sainte Thérèse, ni celle-ci, ni une autre, il y en a plusieurs de Sainte Thérèse. Notre route, ce sera la nôtre. Ce ne sera pas celle de mon voisin, ce ne sera pas celle de mon conjoint, ce ne sera pas celle de mes sœurs dans la communauté. Chacun a sa propre route, même si elle a des points communs avec d'autres, même s'il se croise avec d'autres. La vie de chacun est différente, et le Seigneur en prend soin de façon différente. Alors, est-ce que toutes ces grâces, on peut vivre ou ne pas vivre dans la prière? Est-ce que c'est un avant-goût du ciel? Peut-être. Il y a une expression qui n'est pas toujours bien comprise, un gage. On la trouve parfois dans certaines prières à la messe. Un gage de la vie éternelle, c'est-à-dire comme un avant-goût, c'est ça? On goûte déjà quelque chose qu'on n'a pas encore. Un peu, sûrement. Mais ce sera différent puisque notre condition ne sera plus la même. Nous ne vivons plus dans la foi, nous vivrons dans la vision. J'ai un prof de théologie qui restait honnête tout le temps à ça. Ça, c'est pas dans la foi, ça sera dans la vision. Et ça changera beaucoup de choses. J'avais même marqué à la fin, je vais vous faire un petit QCM sur l'oraison. Mais c'est tant bien, je n'aurais pas eu le temps de préparer. Voilà. Je me tais. Si vous avez quelques questions, je pourrais y répondre pendant quelques minutes.
Merci Bruno. Donc on va prendre un petit quart d'heure de questions, comme c'est la dernière séance. Ça peut être un petit parcours rétrospectif de ce qu'on a vu depuis le mois de novembre, où avec Sœur Sabine Marie, on vous avait présenté la première demeure. Et voilà, on a suivi ce parcours. Et puis vous avez pratiqué, j'imagine, entre chaque séance, donc peut-être que vous avez pu mûrir des choses aussi ou découvrir vos propres chemins ou vos difficultés aussi. Donc voilà, s'il y en a qui ont des questions ou un témoignage aussi, ça peut être un partage.
Il est coutume de dire que quand il n'y a pas de première question, on peut passer directement à la deuxième question. Moi, j'ai deux choses à vous dire, je voudrais les dire avant de les oublier. Une première chose, je ne sais pas si vous mettez en œuvre la pratique de l'oraison ou pas, de quelle façon, mais si vous souhaitez le faire, il faut vraiment se décider à le faire. Décidez de le faire. Après, vous choisissez la durée qui vous semble opportune, qui vous semble réaliste, mais il faut vraiment se décider. C'est pas une fois de temps en temps, l'oraison c'est tous les jours où ça n'est pas en quelque sorte. J'exagère un peu, mais il y a de ça. Il y a ça, une première chose. Et la deuxième chose, c'est ne rien chercher d'autre que d'être auprès de Dieu. D'être avec lui sans rien sentir. S'il nous fait sentir ou vivre des choses, tant mieux, mais nous ne cherchons pas les expériences spirituelles. Nous cherchons juste à nous mettre à disposition de Dieu, le plus souvent dans le silence, mais pas forcément, avec nos pauvres petits moyens, mais nous mettre en présence de Dieu à sa disposition. Et après, le reste, du moment qu'on essaie de rester fidèle, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à revenir des distractions. Voilà. Alors, quand on n'a plus de distractions, il faut remercier le Seigneur, mais quand il y en a, il faut aussi le remercier, parce que ça nous oblige à revenir 15 fois par heure, et encore peut-être plus que ça, à lui. Si on passe notre temps à revenir à lui, ben, on n'a pas perdu notre temps. Voilà.
Non, c'est juste un constat. J'ai l'impression que on rencontre Dieu dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, on peut davantage vivre l'union des volontés. Donc je sais que, c'est juste une idée comme ça, que pour moi, vivre ma journée dans l'instant présent, l'ici et le maintenant, fait que mes oraisons après sont beaucoup plus riches peut-être et en présence de Dieu surtout. Voilà.
Merci, c'est la cohérence de notre vie. Vous savez bien que le passé n'existe pas, le futur non plus, il n'y a que le présent qui existe. Et encore, le temps que je vous parle, le présent c'est tout le temps, mais c'est jamais en fait. Enfin, c'est difficile à comprendre ça, enfin, à saisir, à écrire, à décrire. Mais effectivement, tous les instants de nos vies, chaque seconde, nous pouvons vivre en Dieu. Alors, pas forcément de façon consciente, pas forcément dans les pensées, parce que des fois, notre cerveau doit travailler aussi, pour différentes raisons. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle la vie d'oraison, je crois. Toute notre vie doit être d'un seul tenant, en quelque sorte. Même s'il y a des temps plus réservés à ceci ou à cela, il y a un temps pour tout, mais globalement, c'est toute notre vie qui est en présence de Dieu. J'avais fait une retraite avec mon épouse à l'époque, et il y a très longtemps déjà, ça doit faire 30 ou 40 ans. dont le titre était « Être présent à la présence de Dieu ». Je pense que c'était plus ou moins sur l'oraison.
Merci. Deuxième intervention.
Il m'arrive de dire, c'est plutôt à des jeunes que je le dis, quand vous avez quand vous vivez des belles choses, des moments un peu de, on dirait, de grâce sensible, quoi, des paroles qui vous touchent, des choses comme ça, des sentiments qui vous habitent, écrivez-les, non pas pour chercher à les revivre, mais pour vous rappeler que vous les avez vécues, et que si maintenant vous ne le sentez plus, c'est pas pour autant que c'est différent. L'amour de Dieu pour vous est le même. Il ne grandit pas puisque Dieu est toujours parfait, donc l'amour de Dieu est toujours absolu pour nous. Le nôtre, par contre, en réponse, peut grandir. Mais ce n'est pas parce que vous ne le ressentirez pas que ça ne sera pas vrai pour autant. C'est la vie de la foi. Des fois, dans certains moments, on voit, on comprend, on perçoit. Et le reste du temps, c'est dans la foi, dans la confiance en Dieu. La foi nue, je dirais.
Peut-être qu'une sœur a une question.
Merci Bruno. Je me demandais par rapport à l'éternité, tu disais que dans l'éternité, on verra Dieu. Enfin, je traduis mal, mais en fait, il me semble que dans l'éternité, on découvrira toujours, non ? Enfin, comme de toute façon Dieu nous dépassera toujours, on ne saura jamais vraiment qui est Dieu. Enfin, je ne sais pas comment dire.
C'est une bonne remarque. Il y a à la fois le côté, quand on est dans l'éternité, on n'est plus dans le temps. Donc, est-ce qu'on peut encore progresser ? En même temps, le purgatoire est aussi dans l'éternité. Donc, c'est qu'il va se passer effectivement des progressions, sans doute. Maintenant, j'en dirai pas beaucoup plus parce que je n'ai pas été voir. De toute façon, le mystère de Dieu est tellement grand que logiquement, on n'aura pas assez d'éternité pour en faire le tour. Nous deviendrons Dieu, mais nous deviendrons Dieu par participation, pas par essence. C'est une petite tranche de philo au passage.
J'ai assisté juste à deux, c'est la deuxième soirée, donc il me manque pas mal de demeures. En écoutant, là, je me dis que je suis dans la prière, je suis comme Marthe. On peut être Marthe aussi dans la prière. Tenir une heure.
Tous les personnages bibliques sont une source d'inspiration, où il peut y avoir des liens de parenté, entre guillemets, qui se font des fréquentations avec l'un plutôt qu'avec l'autre.
Concrètement, on prend un texte, quoi. C'est ça ? On mâchouille un texte pendant une heure.
Ça peut être, pendant un temps, ça peut être ça. Ça peut être différent. Il n'y a pas de recette absolue. Ouais. Logiquement, on doit pouvoir petit à petit se passer de tout support. Mais il y a des moments où, même dans les périodes où on est déjà un petit peu rodé, un petit support ne fait pas de mal, quoi. Si ça nous permet de revenir à Dieu parce qu'on est parti bien loin.
Alors le problème, c'est justement le temps, parce que c'est un ralentissement. On roule à 360 et il faut...
Ça dépend, si vous commencez le matin, vous n'êtes pas encore commencé à rouler.
Il faut freiner sérieusement, quoi. Franchement, c'est dans la vie active.
Il ne faut pas freiner, il faut descendre de la voiture. Alors.
Voilà, c'est ça. Carrément. Dans nos vies sont archi pleines. Si on rajoute les téléphones en plus et les notifications, c'est la première chose à enlever peut-être, mais waouh, c'est...
Alors, je me rappelle quand on avait fait, avec mon épouse, je ne sais pas comment le Seigneur nous avait conduit sur le chemin de l'oraison en passant par l'école de... prière du père Caffarel à l'époque à Troussu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire à ce sujet-là ? Oui, voilà, pour que ça tienne dans la durée, il nous a dit, il faut trouver une... Si vous ne trouvez pas le temps dans la journée, si vous n'avez pas le temps le matin, bah, couchez-vous plus tôt. Vous pourrez vous lever un peu plus tôt. Parce que ça, on a toujours tendance à... dans la vie religieuse un peu moins, peut-être. On a tendance à prolonger un peu les soirées, etc. Mais si on se discipline sur l'heure du coucher, ben, on arrivera à se réveiller un peu plus tôt pour consacrer un peu de temps le matin.
Oui, j'ai bien entendu qu'il faut...
Quand il y a des enfants à la maison, c'est indispensable. Sinon, c'est vraiment très compliqué de prendre du temps pour prier. Mais quand ils dorment encore, ça va.
J'ai bien entendu qu'il faut décider. Donc... Merci.
Sainte Thérèse d'Avila parle beaucoup de la détermination déterminée. Donc, c'est sûr qu'à un moment, il faut poser ce choix. Et c'est vrai que l'heure du matin... Alors, il ne faut peut-être pas forcément commencer par une heure. Il faut mieux commencer par un temps plus court, mais régulier. C'est un peu ce qu'on avait dit dans les premières demeures. Il vaut mieux choisir de faire un quart d'heure tous les jours plutôt que de dire, allez, je me lance sur une heure. Et puis, en fait, on n'arrive pas à tenir. Donc, puis après, de rejoindre une communauté ou d'être en lien par la prière. Il y avait eu des témoignages comme ça, je crois, au début. Peut-être de Cécile, je crois. De se dire, bah, je sais qu'au Carmel, elles font raison à 6 heures du matin ou à 5 heures le soir. Donc, soit de venir à la chapelle, soit par communion. Nous, on a beaucoup de chance de prier ensemble parce qu'on a rendez-vous. Donc, c'est une grande aide, c'est vrai, pour tenir.
Je confirme. En tant que prêtre, on est moins nombreux à la fois. On peut être deux. Selon nos lieux de vie, deux, trois, mais pour la prière en commun, on reste sur l'office de l'eau des évêques, sinon c'est compliqué. Mais c'est vrai que plus on met de facteurs facilitants, mieux on y arrive. Moi, je sais que si je reste dans ma chambre, c'est foutu d'avance, parce qu'au bout d'un moment, je vais me retourner à mes préoccupations, etc. Si je descends à l'oratoire, c'est déjà différent. Devant Jésus, là, on réfléchit avant de repartir faire autre chose. C'est plus la fidélité est plus facile à tenir. Enfin, chacun connaît ses petits travers, et puis le malin s'infiltre partout, donc dès qu'il trouve un petit penchant, quelque chose, hop, il tente. Et tout l'enjeu, c'est de rester. Bon, c'est facile à dire. Hein.
Je voudrais juste ajouter à madame, je ne sais pas comment tu t'appelles, il suffit de commencer par un quart d'heure le matin. Et puis tenir, un an après, vous remettez un quart d'heure. Et au bout de 8 ans, vous priez 2 heures par jour. C'est simple à dire. Hein. Voilà. Bon, la question que je voulais poser, c'est est-ce que vous avez une technique pour maîtriser les pensées qui s'envolent et qui reviennent et qui s'envolent et qui...
Non, parce que j'ai pas appris à conduire ce cheval-là. Non, je pense pas qu'on puisse. Enfin, maîtriser, je sais pas, mais parce que quand les pensées s'en vont, on s'en rend pas compte tout de suite. Et au moment où on s'en rend compte, c'est là que c'est déterminant. Au moment où je me rends compte que je suis ailleurs, et bien là, il faut que je laisse tomber. Alors, j'avais noté quand même ça peut être intéressant. Si jamais dans cette pensée, il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant pour la journée qui vient, parce que ça peut arriver aussi, ça. Plutôt que de se passer son temps à se dire, faut pas que j'y pense, on le note sur un bout de papier, 3 mots. Comme ça, on n'y pense plus, on se rappellera à la fin de l'horizon, on ira regarder après. Voilà, ça permet de se débarrasser d'une pensée qui n'était pas forcément inutile. Ça nous permet de revenir à l'horizon. Bon, mais il ne faut pas que ça devienne une occasion d'avoir un bloc-notes pour noter toute la journée. Ce n'est pas le but de l'horizon.
Le malin est rusé hein, quand même. Il ne faut pas exagérer, hein, je trouve. Hein, que...
Il est rusé, mais il
est un peu loin hein, parfois, non ?
Il n'est pas tapouf, c'est-à-dire qu'il prend nos travers les plus bêtes, les plus basiques pour essayer de passer par ça. Voilà. Et après, on s'étonne d'avoir des tentations de base tellement ridicules. Ben oui, mais il s'en sert quand même. Ben, il essaye.
Merci.
Il y aurait une dernière intervention avant qu'on prenne ce temps d'horizon.
Ça peut être une sœur. En entendant tout ce qui est dit là, je me dis finalement, on est tous ramenés à notre pauvreté dans l'horizon. C'est une expérience permanente de pauvreté et qui nous met justement de plus tels que nous sommes devant Dieu. tout cas, c'est mon expérience à moi.
Non, c'était juste pour répondre à Robert, c'est que, en fait, les distractions, moi, c'est souvent des préoccupations quand on a des soucis ou des choses comme ça. Et alors, tout de suite, moi, quand j'ai ça, je me dis, bon, Seigneur, tu le prends. Tu le prends, moi, je ne prends pas. Et ça me décharge, en fait. Puis après, il y a les petites pensées très bêtes. Bon, mais ça, on en a tous. Et il faut les laisser courir. C'est comme disait la grande Thérèse, il ne faut pas s'en occuper.
C'est un peu comme le chien qu'on promène. Moi, je n'ai jamais eu de chien, mais le chien, il se balade. Il va partout à droite, à gauche, mais il reste auprès de son maître. Si nos pensées nous baladent comme ça, mais que notre cœur reste sur le chemin, dans la bonne direction, ça va. Je ne sais pas quelle est la valeur de cette comparaison, mais...
J'avais un texte qui me revenait d'un cours de grec de Saint Basile qui disait que Dieu se donne toujours totalement et que chacun le reçoit selon sa capacité. C'était très bien dit dans le texte en grec. Là, je ne l'ai plus exactement. C'était Saint Basile de Césarée. Alors, mm-hmm. Je trouvais que ça rejoignait le premier point sur l'inhabitation trinitaire. Mm-hmm.
Dieu ne se donne pas à moitié. C'est nous qui le recevons peut-être à moitié. Ou même moins que ça, peut-être. C'est nous qui pouvons le rejeter. Il y a un passage, je ne sais plus dans quel évangile c'est, mais personne ne peut enlever... Vous êtes dans la main du Père, personne ne peut vous enlever de la main du Père. Quelque chose comme ça. Vous arrachez de la main du Père. Sauf que nous, on peut en sortir. Il nous protégera contre toutes les attaques, mais nous, si on ne veut pas rester, il ne nous tiendra pas prisonniers. C'est le drame de notre liberté, la mauvaise liberté, l'usage mauvais de la liberté. On peut lui tourner le dos, on peut le quitter. Mais lui nous attendra toujours. Lui se donne toujours. Il nous protège de toute sortie, de tout dérapage, etc. Mais si c'est nous qui le désirons vraiment sortir, désirer c'est pas le mot, mais enfin bref, si on veut le quitter, il ne nous retiendra pas, comme le père prodigue en amour, comme on dit. Le père qui avait deux fils, c'est la même chose. Il ne retient pas son fils. Mais il est tellement heureux de le voir revenir.
Non, juste une réflexion qui me vient. J'ai bien compris que l'oraison, c'était aussi une décision. Mais ce qui me venait, c'était, est-ce que je peux confier, prendre ce temps d'oraison et confier aussi à mon âme de faire oraison sur le temps de la journée ou autre, de temps en temps faire un petit rappel pour lui, quelque part refaire un lien comme voilà.
On pourrait prendre d'autres images, mais c'est, oui, ça correspond aussi à la vie normale. On prend un temps qui nous consacré à Dieu et rien qu'à lui, totalement. On n'est pas là pour autre chose que de penser à lui et d'être devant lui. Et puis après, dans le reste de notre journée, on fait toutes nos activités qui sont plutôt globalement pour les autres, pour simplifier. Mais ça ne vous empêche pas de vivre avec lui non plus. C'est un tout. J'avais autre chose, mais c'est disparu de ma mémoire. Donc ça ne reviendra pas.
On va peut-être s'arrêter sur ces... En tout cas, merci à chacun. Je vais me remettre par là. Merci beaucoup à Bruno et puis à nos deux autres intervenants de l'année, donc frère Anthony Joseph et père Emmanuel Dandigné. Voilà, c'était un parcours riche. On s'est posé la question en communauté pour l'année prochaine. Donc, on est plus parti pour vous proposer quelque chose de moins régulier, mais plus qui profiterait des passages des Pères Carmes chez nous. Voilà, aussi parce qu'on a besoin un peu de souffler après cette année très riche. Donc, une fois par mois, c'est quand même exigeant pour une vie de communauté. Donc, on vous donnerait plutôt rendez-vous peut-être que ça fera une fois par trimestre en moyenne. Et puis voilà. Puis on pense reproposer une journée pendant le carême, comme on avait fait la journée retraite école d'oraison là, sur toute une journée. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous regardez régulièrement ou de temps en temps notre site internet, comme ça vous aurez les informations, ou vous me donnez votre adresse mail pour que je vous les envoie. Certains l'ont déjà fait, pour que je vous envoie si vous souhaitez qu'on vous dise, qu'on vous prévienne quand il y a quelque chose. Voilà. Et puis sachez que vous êtes toujours les bienvenus pour prier avec nous, soit l'office, soit l'oraison, soit la messe, soit tout. Voilà, et puis vous pouvez compter sur notre prière, et on vous encourage à persévérer sur ce beau chemin de l'oraison, qui est vraiment une grande grâce quand on, voilà, de pouvoir rencontrer le Seigneur de façon quotidienne, et petit à petit ça irrigue notre journée. Voilà, donc bonne aventure de l'oraison. Et merci encore, Bruno.